Dieu est venu et je pèse mes mots alors que j'ai des nuits assez courtes pour ceux qui me connaissent. Et je me réveille, je me lève. Et j'avais déjà un sujet de prédication au cas où, parce que ce n'était pas moi qui devais prêcher. Et Dieu me dit littéralement, et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « prêche sur le pardon ». Et quand j'ai entendu ça, je me dis « Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Ou « qu'est-ce qui se passe ?» Et si le Saint-Esprit m'a parlé pour que je puisse prêcher sur le pardon, assurément, et en quelques minutes, quelques temps, j'ai pu écrire mon message, assurément, et je suis convaincu que ça va parler à quelqu'un. Je suis convaincu. C'est le genre de message, quand tu dis à quelqu'un, viens, il y a un message sur le pardon, déjà la personne même dans sa tête dit, oh, je vais me prendre plein la tête, qu'est-ce que je vais mettre en lumière peut-être des choses, je n'ai pas la force de pardonner. On se met tellement la pression quand on parle du pardon, on se dit, oh, c'est dur, comment je vais faire? Déjà avant même, peut-être d'entendre le message, certains, vous avez poussé un soupir, mais j'aimerais vous encourager, vous allez voir que c'est un message très pratique, en tout cas j'espère que ça va vous aider. Je vais l'aborder d'une manière qui a bouleversé ma vie. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur le pardon. Et je prie que ça puisse vraiment vous toucher. Et le titre, vous l'avez compris pour ceux qui connaissent le film, La Cabane, Le Chemin du Pardon, un excellent film, je vous encourage à regarder. C'est l'histoire d'un homme qui va perdre sa fille et qui a été abusée dans une cabane, morte. Et on va retrouver que les traces de ses vêtements, donc il ne va même pas faire le deuil avec le corps, de ce que je me souviens, il va retrouver juste les traces de ses vêtements. On sait qu'elle a été là, abusée à cet endroit, dans cette cabane. Et quelques années plus tard, lui tombe en dépression, il perd la foi en Dieu. Quelques années plus tard, il reçoit un courrier dans sa boîte aux lettres. Et dans ce courrier, on lui dit d'aller dans cette cabane. Et quelque chose va se passer là-bas. Je ne suis pas là pour faire tout le film, vous l'avez compris. Et là commence un processus, un chemin, d'où le titre, le chemin du pardon. Et Dieu va le conduire à réellement relâcher le pardon. Et il y a tellement de textes que j'aurais pu choisir cet après-midi pour parler du pardon. Mais j'ai choisi ce texte-là de Luc 17, verset 3, pour que nous puissions vraiment comprendre ce qu'est le pardon biblique. Parce qu'on parle beaucoup de pardon, mais regardez ce que Jésus dit. Il y a d'autres textes qui vont compléter, on va dire, ce que Jésus dit sur le pardon. Mais ce texte est tellement précis que je me dis, mais comment ça se fait? J'ai tellement écouté des messages. Mais comment ça se fait qu'on ne mette pas l'accent sur ce que je vais mettre en lumière cet après-midi? Luc 17, verset 3 nous dit, prenez garde à vous-même, ça commence bien. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Texte simple, clair. Il y a un processus, on va en parler. Jésus met en lumière un processus simple, clair sur le pardon. Jésus ne dit pas, on a mal agi envers toi, on t'a causé du tort, pardonne. On veut être honnête, on a au moins une fois conseillé ça à quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Pardonne. On t'a fait du mal? Pardonne. Tu es chrétien? Pardonne. Tu es chrétienne? Pardonne. Jésus aurait pu dire de manière simple, de manière directe comme ça, si quelqu'un t'a causé du mal, pardonne. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Et cet après-midi, je n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais c'est juste pour vous mettre un peu de l'eau à la bouche. Je vais vous prouver que le non-pardon n'est pas forcément un péché. Le non-pardon n'est pas forcément un péché. On va voir pourquoi. Parce que le véritable pardon, n'est pas juste une décision. C'est un processus. Et vous l'avez compris avec le témoignage d'Daniel. Il a décidé de pardonner, mais il avait besoin de passer par un processus. bien sûr, ça commence par une décision. Mais ce n'est pas la fin. Si tu ne décides pas de pardonner, tu ne peux pas aller plus loin. Mais le problème, c'est que bien souvent, on demande aux gens de pardonner et ils n'y arrivent pas. Et parfois, nous-mêmes, nous nous culpabilisons de ne pas pardonner, de ne pas réussir à pardonner, parce que tout simplement, on a cette conception, et je dirais même ce mensonge diabolique, que parce que tu as décidé, c'est fait. Et là, tu arrives devant la personne, tu ne supportes pas, tu ne supportes pas sa présence, tu dis, mais j'ai pardonné, j'ai décidé de pardonner, mais tu n'y arrives pas. Et si tu es entouré de chrétiens de bonne volonté, on va te remettre une bonne couche spirituelle chrétienne. Va dire, mais tu es chrétien, tu dois pardonner. Et on se sent tellement coupable. J'ai décidé de pardonner, comme si le pardon se décrétait. Comme si je promulguais une loi. Ça y est, je pardonne. Et c'est fait. Mais le pardon ne se décrète pas. C'est le fruit d'une transformation opérée par le Saint-Esprit. Tu décides, oui, de pardonner et ensuite, écoutez le message de dimanche dernier, tu te laisses transformer pour réellement vivre le pardon. Ça commence par une décision, ça se poursuit par la collaboration avec le Saint-Esprit qui va travailler mon cœur. Alors, on va voir trois raisons rapides. Pourquoi pardonner, c'est un processus. La première raison, simple. Pardonner nécessite que nous devions reconnaître que l'autre a mal agi. Moi, j'ai un problème avec les messages sur le pardon parce que souvent, quand on prêche sur le pardon, celui qui doit pardonner s'en prend plein la tête. Déjà, tu as souffert, déjà, on t'a fait du mal et le prédicateur, en plus, il te dit, tu dois pardonner, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas une bonne chrétienne, tu dois pardonner et tu te... Mais j'ai déjà mal, j'arrive pas. Et moi, quand le Saint-Esprit m'enseignait ça, j'ai dit, « Ah, Seigneur, c'est bon parce que tu me parles du pardon et tu commences par me dire, avant de pardonner, tu dois reconnaître que l'autre a mal agi. » Parce que trop souvent, on passe vite sur le péché de l'autre, sur l'offense de l'autre. Mais Jésus commence en disant, « Si quelqu'un t'a causé du tort, si quelqu'un a mal agi envers toi. Si une personne t'a fait du mal, si ton frère littéralement a péché. Si ton frère a péché. Donc, première chose, pourquoi le pardon c'est un processus? Parce que tu dois reconnaître la version parole vivante, une autre version de la Bible, pour ceux qui ne la connaissent pas, dit ceci. Veillez donc sur vous-même, sur votre manière de vivre. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, fais-lui des reproches en conséquence. S'il change d'attitude, pardonne-lui. Donc, ça commence littéralement par le fait de reconnaître que l'autre nous a causé du tort. Et c'est pour ça que ça prend aussi un processus. Parce que bien souvent, nous ne pesons pas le tort que nous avons subi. On dit, je pardonne. Et ensuite, le mal revient. Et la douleur revient. On ne comprend pas. Et oui, parce que tu as réellement été touché, tu as réellement été blessé, l'autre a réellement fait quelque chose de pas normal. Ce n'est pas parce que, et ça aussi dans le monde chrétien, tellement tu me juges, tu me condamnes. Ce n'est pas parce que tu dis, écoute frère, tu m'as fait du mal, ah ça y est, tu me condamnes. Mais non, Jésus est très clair. Jésus est très clair. Il faut appeler péché, péché. Moi, je me souviens une ligne de fois qu'on m'a repris sévèrement parce que j'avais péché. Ce n'est pas agréable hein, de dire « j'ai péché ». C'est tellement parfois plus facile de le dire devant Dieu. Bien sûr, on ne croit pas à la confession dans le sens d'aller voir un homme de Dieu, un pasteur, pour qu'il nous absout de nos péchés. Et on confesse pour qu'on puisse recevoir. Non, mais par contre, il y a ce mensonge-là aussi de dire « non, le péché, c'est entre Dieu et moi ». Si tu as péché devant quelqu'un, tu dois aller dire à la personne, j'ai péché. Et si quelqu'un a péché contre toi, tu dois dire, tu as péché contre moi. On va le voir tout à l'heure, parce que si on ne le fait pas, on n'avance pas dans nos relations. Donc, le pardon biblique, ce que Jésus enseigne, première chose, c'est réellement de réaliser qu'on est dans un processus et je dois accepter ce processus-là de dire, OK, quel mal j'ai subi? Quel mal m'a-t-on fait? Pas de manière introspective, et vous comprenez ce que je veux dire? De là à se faire du mal. Mais non, juste de manière objective. OK, qu'est-ce qu'on m'a fait du mal, réellement? Où est-ce que j'ai été touché? Et ça, c'est un processus. C'est pas juste, OK, j'ai eu mal, bon, OK, d'accord. Je décrète, je pardonne. Deuxièmement, pourquoi c'est un processus? Et ça, on n'aime pas trop. Parce que pardonner nécessite une confrontation. Jésus est clair. C'est simple. Si ton frère a péché, j'aime ça parce que Jésus ne dit pas pardonne. Nous, on oublie ce qu'il y a entre les deux. On est très fort hein, pour culpabiliser. Si ton frère a péché, pardonne Marc. Mais non, la Bible ne dit pas totalement ça. La Bible dit, si ton frère a péché, va, reprends-le. Et là aussi, ça demande un processus. Ça demande et ça nécessite un processus pour aller, parce qu'il ne faut pas le faire avec précipitation, bien sûr, on va en parler. Reprendre en grec, parler franchement, honnêtement, poliment, mais dire les choses. Tu m'as fait mal, tu as mal agi, ça m'a touché et j'aimerais régler ça avec toi. Et ça, ça peut prendre du temps parce que bien souvent, nous nous mentons à nous-mêmes. Et on prie souvent pour qu'il y ait la vérité. Jésus est la vérité. Plus on veut marcher avec Jésus, plus on doit marcher dans la lumière. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que Daniel l'a tellement bien exprimé et il a employé un mot que j'ai mis littéralement dans mes notes. Ça boue à l'intérieur de nous. Mais on dit, c'est pas grave. Mais ça boue. J'ai envie de le... Mais ça boue, mais c'est pas grave. Je suis chrétienne. Je dois sourire. Tout va bien. Je t'aime, frère. J'ai envie de te tuer. Et ça, c'est le mensonge, comprenez? C'est la duplicité. Et c'est ça que je veux attaquer cet après-midi. C'est terrible. Parce qu'on dit et on montre devant tout le monde que tout est clean. Je suis une bonne chrétienne, je suis un bon chrétien. Mais à l'intérieur, on ouvre un boulevard à Satan. Parce qu'il n'y a plus la vérité. Parce qu'il n'y a plus réellement, il y a la confusion. On fait comme si tout allait bien. Le manque de vérité attire le père du mensonge, le diable. Et j'aimerais vraiment te le dire. Le manque de vérité, même si peut-être c'est, ça part d'un bon sentiment, je ne veux pas faire du mal à mon tour, on m'a dit que je dois être un bon chrétien, ça part peut-être d'un bon sentiment, mais si tu n'es pas vrai entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu montres par ton sourire, ça attire le père du mensonge. Le manque de confrontation nourrit l'offense et va faire grandir l'offense. Parce que ça va se passer dans la pratique et ça c'est... J'aime bien parce que la Bible, ce n'est pas un livre, bien sûr, ce n'est pas un manuel de psychologie sociale, mais c'est un manuel quand même, ça nous montre qu'il y a tellement de choses qui sont logiques pour Dieu que même quand c'est spirituel, il ne dit pas pardon, il dit bon, va le reprendre parce que Jésus sait que la confrontation permet une guérison. La discussion avec quelqu'un. Tu as beau prier, caramba, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, libère, fais quelque chose. Je pardonne. Et ça grossit dans ton cœur. Ça grandit. Tu n'y arrives pas. Tu dors mal. Peut-être aussi que Dieu veut que tu apprennes à confronter. Allez voir la personne poliment. Et ça, pareil, c'est un processus. Parce que quand c'est fait avec Dieu, ce n'est pas le soir même. Je veux dire les quatre vérités. Pasteur Omarik a parlé de confrontation. Je te confronte. Jésus, ce n'est pas ça. Peut-être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus veut libérer. Jésus veut guérir. Jésus veut empêcher que le diable puisse s'immiscer. Parce que bien souvent, le chemin qu'emprunte l'ennemi, ce n'est pas... De suite, ce qui a été semé, ce qui nous a été causé, c'est comment on va réagir. Et donc, Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous enseigner, nous amener dans cette dimension où l'offense, on va confronter. Et on va se laisser transformer pour discerner la volonté de Dieu. Seigneur, ok, j'ai subi ça. Comment je vais me comporter? Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à confronter. Aide-moi à parler. Et c'est pour ça que je nous encourage, bien sûr, à accepter d'être confronté. Parce que accepter d'être confronté par une personne qu'on aurait blessé, touché, c'est aussi une preuve de l'amour à notre Dieu. Mais aussi, c'est une preuve de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Que celui qui dise « j'aime mon frère », que celui qui dise « j'aime, je manifeste l'amour », puisse aimer aussi à être confronté. Et se laisser confronter prouve notre amour. Je ne peux pas vous dire que je vous aime si mon amour s'arrête lorsque vous me dites ce que je vous ai fait du mal. Et en fait, la confrontation, c'est l'une des manifestations de l'amour et de la considération qu'on a les uns pour les autres. Nous ne voyons pas la confrontation comme une déclaration de guerre. Et si c'était possible de dire que la confrontation est une déclaration d'amour. Il y a tellement d'autres passages aussi qui nous disent, qui mettent l'accent sur le fait qu'on ne doit pas agir sous la colère. Hein, j'aime bien, la Bible est très équilibrée, encore une fois. Je veux confronter. Et si je comprends que le pardon est un processus, donc je vais prendre le temps pour prier. Parce que bien souvent dans la pratique, quand je prie, je cherche le cœur de Dieu. Dieu me montre aussi peut-être là où moi j'ai mal agi. Peut-être que moi aussi, j'ai alimenté. Pas toujours, parce que l'histoire de 50 séquences, là, il faut arrêter ça. Il n'y a pas toujours 50 séquences. Dieu est juste. Parfois, c'est 100 et 0%. Mais parfois, c'est 60 et 100%. Peu importe, ce n'est pas une question de pourcentage. Mais par contre, si je me présente devant Dieu, Dieu va me dire, écoute, mais toi, tu peux agir comme ça. C'est pour ça que prenons le temps, avant d'aller confronter, de prier, de demander la sagesse à Dieu. Dis, Seigneur, montre-moi. Et le Saint-Esprit va dire, ok, là, voilà ce que tu as subi. Là, c'est une forme d'abus. La personne n'avait pas à te parler comme ça. Là, en fait, je te dis avec beaucoup d'amour, tu es susceptible. Le Saint-Esprit va te dire, parce que lui connaît les cœurs. Lui va aussi mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc, ne cours pas vite à la confrontation. Cherche la présence de Dieu pour que Dieu te dise, non, c'est juste une question de susceptibilité ou la personne a mis en lumière une blessure chez toi. Mais parfois, vraiment, c'est réel. Et dans ce cas, on passe à la deuxième étape, on va aller confronter. On va aller dire, voilà ce qui se passe. La confrontation n'est pas une attaque contre la personne, mais un positionnement contre ce que le diable veut faire. Et là, j'emprunte le chemin pour aller stopper l'œuvre de l'ennemi. Quand je décide d'aller confronter, je prends mes responsabilités en chrétien, chrétienne mature, pour que la relation se rétablisse par sa grâce et pour que j'apporte la vérité qui va libérer, qui va me libérer, mais on va voir aussi qui va libérer l'autre. Donc, ça peut se faire en relisant les principes les uns les autres qui sont dans la parole de Dieu. C'est tellement accueillez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Il y a tellement des principes qui peuvent nous aider à aller confronter pour ne pas aller avec un esprit de supériorité, mais avec une humilité pour gagner. Parce que pour se battre, je parlais cette semaine à une personne qui, je disais, mais Christ est mort pour deux types de relations. La relation avec le Père et les relations les uns les autres. Et la confrontation permet de sauver les relations. En fait, si tu vas confronter pour prendre tes distances, oublie ça, c'est que tu n'es pas prêt. Enfin, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Je vais lui dire que c'est fini. Ah ben, ne va pas confronter. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête du tout. Dernier point, pourquoi c'est un processus? Et là, c'est le cœur du message. Et c'est là, je trouve ça dommage, on n'insiste pas assez. Jésus est clair. Va, reprends. Et qu'est-ce qu'il a dit après la confrontation? S'il se repent. S'il se repent. Pardonner nécessite que l'autre se repente. Le véritable pardon, je vais bien expliquer ça. S'il change sa manière, une autre version, sa façon de penser, d'agir. C'est pourquoi la vraie repentance nécessite du temps à l'autre. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas juste décréter « j'étais vraiment pardonné ». On va voir la différence entre se être libéré, on dit « ouais, okay, je pardonne ». Mais le pardon qui renoue avec la personne. Malheureusement, les communautés, les églises, les relations sont remplies de, justement de relations, remplies de mensonges, parce qu'on a libéré un pardon sans que l'autre soit réellement repenti. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est une bombe à retardement. Donner du temps à l'autre de se repentir, c'est aussi se donner du temps pour libérer le vrai pardon. Est-ce que vous comprenez? C'est un processus. Laisse du temps à l'autre de réaliser qu'il y a eu parfois, parce qu'il y a eu la confrontation, on repart déçu. Ça t'a pris peut-être du temps pour aller confronter. Laisse aussi du temps à la personne pour réaliser le mal. Mais toi, tu as fait ce qu'il fallait. Parce que nous, on lit ça inversé. Et on se fait des films, ça dit que c'est la même journée. On va voir la personne qui nous a fait du mal, la personne touchée par la grâce, ça peut arriver, hein, mais... Ah, ok, d'accord. Je change de comportement, je me reçois. Et tout devient comme avant. Bien sûr, selon la mesure de l'offense, ça peut arriver. Mais généralement, la vraie repentance va nécessiter du temps de prendre, et il faut donner ce temps. C'est pourquoi, je disais, le vrai pardon ne se décrète pas. Jésus parle de repentance avant. Regardez, j'aime bien d'autres passages et ça entre cet après-midi. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Ça a l'air simple, mais il dit quoi? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais revenir là-dessus, c'est important. Comme Dieu vous a pardonné. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là aussi, ça paraît simple. Si on a su, pardonnez-vous. Non, mais la suite dit quoi? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, je vous pose la question. Comment Christ nous a pardonné? Si on doit pardonner comme Christ. Si on doit pardonner comme Dieu. Est-ce que le jour où Christ est mort, de suite on a été pardonné? Pourquoi Dieu attend de nous qu'on se repente? Donc si Dieu nous pardonne après nos repentances, pourquoi devons-nous pardonner à l'autre sans repentance? Marc 11, c'est ça me fracasse encore plus. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu, c'est très clair. Hein? Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On peut lire vite ça en disant oui, il faut pardonner. Mais on peut lire ça aussi en se disant, en fait, il arrive à Dieu de ne pas nous pardonner. Si je ne pardonne pas, la Bible dit, je ne pardonne pas. La puissance du sang de l'agneau est inefficace. Parce que je n'ai pas pardonné à quelqu'un qui est repentant. Moi, vous savez, avec mon amoureuse, on a un ministère qui s'appelle Restauration et Compassion. Et je peux vous assurer que le thème de la restauration, c'est l'un des thèmes les plus combattus en France. Et parfois, je dis, Seigneur, si réalisé, que Dieu, c'est pas un jugement, c'est la parole. Là, je lis les Écritures. C'est-à-dire, si quelqu'un ne me pardonne pas, si quelqu'un ne pardonne pas à une autre personne qui est repentante, la Bible est claire. Ça dit que même Dieu ne pardonne pas. C'est terrible. C'est terrible. Donc, revenons à ce que je disais. Donc, vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure? Le manque de pardon n'est pas forcément un péché. Parce que sinon, on fait Dieu pécheur. Dieu, tu es pécheur, tu ne pardonnes pas. Bah, Dieu va dire, la personne n'est pas repentante. Entrons dans cette dimension de provoquer quelque part, de travailler à la repentance. Demeurer offensé est un péché. Mais le manque de pardon ne l'est pas forcément. L'offense est un péché. C'est quoi la différence? L'offense, je garde prisonnier l'autre. Mais le pardon, c'est autre chose. Et quand il est dit, par exemple, on va le voir plus tard. Non, je lirai plus tard. Donc, je disais tout à l'heure que notre pardon ne se situe pas quand Christ est mort. Mais notre pardon se situe... En fait, notre pardon est rendu possible par la mort de Jésus. Mais quand je me repens sincèrement, que je suis sur le chemin de la repentance, j'accède au vrai pardon. Et si je me suis réellement repenti, je suis réellement pardonné. Vous comprenez? Bien sûr, c'est aussi un processus. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer radicalement, total. Mais dans la prise de décision et dans ma marche, je montre des fruits de repentance. J'accède au vrai pardon. Donc, quand on vous dit pardonne, ok, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens de, ben, libère la personne, ne la retiens pas dans ton cœur. Ça, c'est une chose. Première étape. Mais par contre, si on vous dit pardon, c'est-à-dire réconcilie-toi avec la personne comme si rien n'était, je pèse mes mots, c'est diabolique. Même Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Dieu nous confronte, il dit, Romarie, tu as péché, change ta manière de vivre, change ta manière de penser. Il faut du fruit de la repentance. Ne confondons pas confession et repentance. Et le Saint-Esprit, et ça fait 2 semaines, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et en fait, c'est pour ce message. Ça fait 2 semaines, j'entends cette phrase. Romaric, la confession est un acte, la repentance est un processus. Romaric, la confession est un acte, la repentance... Je n'arrêtais pas de l'entendre. Parce que dans l'Église, on a confondu confession et repentance. Parce que j'ai dit au frère, tu m'as fait du mal, ça y est, je me suis repenti. Ça doit redevenir comme avant. Jésus prend ce qu'on appelle l'hyperbole. Quand il dit, ben, si ton frère revient la même journée 7 fois, tu dois... Ok. C'est l'hyperbole pour dire, toi, tu dois libérer. Mais ça ne veut pas dire, si la personne ne s'est pas repentie, mais surtout pas de relation. Surtout que ça ne redevienne pas comme avant. Mais par contre, quand la personne est là, je vais commencer à toucher des choses très graves. Et je mesure ce que je vais dire. Ce qui est terrible, lorsqu'il y a véritablement vraie repentance, de la même manière que Christ, quand nous pardonnons comme Christ nous a pardonné, je crois profondément, premièrement, qu'il faut la repentance. Et je crois profondément que si on s'est réellement repenti, le dossier n'existe plus. Est-ce que vous voyez l'équilibre? On valorise la repentance pour réellement traiter le problème de fond. Pour que quand il y a repentance, on n'a pas un dossier dans la poche qu'on veut ressortir à tout moment. Et là, j'ai dit, je parle des vraies choses. Je peux parler d'adultère, je peux parler d'abus, je peux parler des choses graves. S'il y a repentance véritable, on s'inspire de ce que Dieu fait. Moi, quand je me présente devant Dieu, et ça m'a toujours touché, il y a des moments dans ma... Vous savez, cette forme de spiritualité qui veut montrer à Dieu, je me souviens là où j'ai péché, là où je suis tombé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu m'as pardonné, merci Seigneur. Dieu lui dit, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui s'est réellement repenti par rapport à quelque chose qui t'a fait du mal, le vrai pardon tu te libères, ne dis pas, enfin, moi je le dis, je crois réellement, c'est ma compréhension des Écritures. Je vous le soumets parce que ça vient chercher des choses très graves dans chacune de nos vies. Mais ma compréhension des Écritures, peu importe la gravité, peu importe la gravité, je dis ceci, et ça peut être un processus, hein, longtemps, mais on doit viser ça. Peut-être que tu vas faire toute ta vie à poursuivre ce processus, mais ne te cache surtout pas derrière l'idée de « c'est tellement grave que ça ne peut plus devenir comme avant ». Mais je te dis, si tu raisonnes comme ça, j'espère que Dieu ne te dit pas à toi « c'est tellement grave que ça ne sera jamais comme avant ». Psaume 32, verset 3, David va dire « Tant que je me suis tué, vous connaissez l'histoire de David, il fait quelque chose de grave, commettre l'adultère avec Bathsheba, il est meurtrier. Il dit « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé pas seulement le péché, tu as effacé la peine de mon péché. Fais sortir quelqu'un de la prison. Si quelqu'un est vraiment repentant, fais sortir de la prison. Prêchons ça. Toi, dis prêchons ça. Encourageons-nous les uns les autres. Challengeons-nous les uns les autres. La question fondamentale. OK, tu as eu mal. Tu as confronté. OK, est-ce que la personne t'a demandé, s'est repentie? C'est la vraie. C'est pas juste à demander pardon. Parce que nous, on a réduit la repentance à demander pardon. Prenons les vrais termes. Est-ce que la personne s'est repentie? Changement d'attitude, transformation, du fruit de la repentance. Ah oui, je vois qu'elle a fait des efforts. Là. OK, dossier classé. Après ça, on peut dire dossier classé. Mais vraiment, dossier classé. Après, on peut t'aider, on peut nous aider les uns les autres à aller jusqu'à là-bas. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste mettre les bons mots et avoir la bonne perspective et chercher la bonne libération. Et c'est ça qui fait de nous une église puissante, une église qui a de l'autorité. Parce que lorsqu'on porte le message de la grâce, on doit manifester le message de la grâce. Lorsqu'on porte le message du pardon, on doit manifester le message du pardon. Lorsqu'on porte le message de la repentance, on doit manifester le message de la repentance. Comme Dieu. Comme Dieu. Donc, vous avez compris, ce n'est pas du tout biblique d'affirmer que pardonner comme Jésus, c'est accorder son pardon à son offenseur sans repentance. Pourquoi? Si on réfléchit bien, pourquoi Dieu ne veut pas ça? Pourquoi ce que moi j'appelle le pardon bon marché, c'est dangereux? En passant, arrêtez les textos, dis, je te pardonne. Je te pardonne. La personne a eu un bon moment divin, et envoie un texto, je te pardonne. Et parfois, tu reçois ça de quoi? Il n'y a pas eu confrontation, il n'y a rien eu. Par contre, tu reçois, je te pardonne. Tu ne sais même pas de quoi. Et là, tu as un sentiment de culpabilité. Tu n'es même pas libéré. En fait, c'est ce genre de texto ou d'appel qui te jette en prison. Et moi, je refuse ça. Comprenez? Ce n'est pas biblique, ça. Hein? Je te pardonne. Mais tu me pardonnes si déjà je suis repentant. Donc, pour que je me repente, il faut que j'aie fait un péché, que je le réalise, que je viens. Comprenez? Je te pardonne. Non, tu peux, dans ta présence, tu vas dire, OK, Seigneur, je libère la personne, il n'y a pas d'offre. Ça, c'est autre chose, OK? Mais je te pardonne. Soyons matures. N'envoyons pas ce genre de message. C'est plus troublant, vous comprenez? Je suis sûr que vous l'avez déjà reçu, vous ne comprenez pas trop. Je te pardonne. Bon, tout ça pour dire, le pardon bon marché, Ça nous conduit à être dans le déni. On ne guérit pas véritablement. Dieu a pour nous une libération complète. Dieu, ce qu'il a commencé, il a achevé. J'aimerais nous encourager à tendre à la libération, à la délivrance complète et à affronter les choses. Donc, pas de pardon, bon marché. Allons au fond. Parce qu'on refoule notre amertume, on finit par pécher. En fait, on est dans le péché. Quand tu accordes un pardon bon marché, il y a de fortes chances que tu pèches. Et surtout, on va priver l'autre de la vérité et on va contribuer à ce qui blesse d'autres personnes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, si tu as été touché, blessé, peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il faut aller prier quand même, hein, je rappelle ce que j'ai dit, peut-être que Dieu veut utiliser cette situation pour que tu permettes la libération de quelqu'un. Je termine avec deux points essentiels. Je sais que je suis dans l'esprit, je sens sa bataille. Je comprends, c'est des sujets assez importants. Deux points pour terminer, pour que ce soit clair. Premièrement, que se passe-t-il quand quelqu'un t'a fait du tort? C'est-à-dire, quelqu'un t'a... Écoutez bien, parce que ces textes que je vais lire, je suis un peu en mode enseignement cet après-midi, c'est important. On les comprend tellement mal, on les comprend souvent à l'envers. Le texte que je vais lire là, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'a fait du tort? Regardez, Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, sous-entendu, quelqu'un vous a fait mal, pardonnez. Et c'est là où je parlais de libération. C'est une décision, ce n'est pas le pardon, le sens réconciliation, mais pardonnez, libérez. Parce que le mot grec là signifie envoyer au loin, laisser partir la personne. Mais si on t'a fait du mal, c'est comme ça que tu dois faire. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est-à-dire, encore une fois, le mot pardonner, libérer la personne. Ça veut dire quoi concrètement? Nous, parfois, quand on lit ça, en fait, on mélange avec notre texte que je vais lire tout à l'heure. Quand quelqu'un nous a fait du mal, encore, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais faire le premier pas. Mais on se sent tellement coupable, on utilise ce verset. Non, je dois aller régler ça, je dois aller régler ça, je dois aller régler ça. Si tu sais, tu as prié, tu sais que la personne t'a fait du mal, toi, ton but, c'est de libérer la personne. Mais tu dois laisser le processus se faire parce qu'après, il doit faire confrontation, repentance. Comprenez? Il ne faut pas tout mélanger. Parce que si on brûle les étapes, il faut que je règle tout. Non, si quelqu'un t'a fait du mal, toi, libère la personne dans ton cœur. Libère-toi. Mais regardez par contre, quand tu as fait du tort, c'est pas la même chose. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, donc c'est toi qui as fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Laisse ton offrande devant l'autel, va. Là, il y a un déplacement. Là, il y a une réconciliation. Là, je dois aller chercher moi. Là, je dois aller me repentir. Là, il y a quelque chose qui doit se passer. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand j'ai fait du tort, c'est moi qui me déplace. Quand on m'a fait du tort, je libère la personne. Et souvent, on mélange. L'obéissance, je termine avec ça, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dépose ton offrande. C'est le cœur, là où on va prier maintenant. On peut tellement avancer dans tellement de choses avec Dieu. Mais il faut savoir, ça peut être sur une journée, mais surtout ça peut être sur une saison. Je ressens, et c'est pour ça, je crois, pour plusieurs, Dieu voulait ce message. Il est temps dans cette saison que tu déposes ton offrande. Il est temps dans cette saison, peut-être que tu fasses pause. Il y a tellement de choses que tu fais pour Dieu. Il y a tellement de choses que tu veux faire pour Dieu. Mais peut-être qu'il est temps maintenant que tu dises, il faut que j'aille demander pardon. Et il faut surtout que j'entre sur ce chemin de repentance parce que j'ai vraiment causé du mal à cette personne. Ce n'est pas parce que tu l'as réglé avec Dieu que tout est réglé. Et pour ceux qui ont été offensés, juste mettre ça, et si vous pouvez retenir de tout ce que je viens de dire ça, c'est déjà pas mal. Pardonner, c'est vraiment l'opportunité de manifester la nature divine. Et quand on ne pardonne pas, on s'enferme, parce qu'on n'a pas le pardon de Dieu, on l'a vu clairement, mais on ferme le ciel. Si le ciel est fermé, c'est-à-dire Dieu ne peut plus toucher, plus agir, c'est les démons, c'est plus notre vie là, ça va de catastrophe en catastrophe. Alors cet après-midi, l'appel est vraiment très très simple. Et on a prié pour ça. Vous avez écouté la parole, la vérité vous a confronté. Mais il y a deux catégories de personnes. Peut-être vous êtes dans les deux catégories, c'est pas grave. Peut-être vous êtes offenseur. Il faut qu'il y ait une profonde repentance pour réparer. On parle souvent de la repentance envers Dieu. Il faut qu'il y ait une profonde repentance pour aller réparer le mal que vous avez causé à quelqu'un. C'est ça le vrai évangile. Sinon, c'est du pipeau, sinon c'est du blabla. Si vous êtes offensé, deux possibilités. La personne s'est vraiment repentie. Dossier classé. Seigneur, je t'abandonne tout. J'ai du mal à classer le dossier alors que pour toi, c'est classé puisque la personne s'est repentie. aide-moi, Seigneur. Si la personne ne s'est pas encore repentie, il est temps que vous creusez dans la présence, dans sa présence, pour savoir s'il doit avoir confrontation et pour aller plus loin dans la réconciliation. Et si, et ça je le ressens en ce moment dans l'esprit, des relations fausses basées sur du non-pardon, basées sur des sourires de façade, qu'on doit être vrai. Marcher dans la vérité, c'est compliqué. Hein? Soyons honnêtes. Marcher dans la vérité, le diable ne veut pas ça. Donc, prenons la décision d'entrer dans un process, parce que ne courez pas après ce message à faire n'importe quoi. Mais entrons dans un process avec Dieu pour dire, OK, et si c'était l'opportunité, et je crois que c'est l'une des raisons pourquoi Dieu m'a donné ce message, de purifier nos relations, d'amener la vérité dans nos couples, d'amener la vérité dans nos relations les uns envers les autres, d'amener la vérité dans ce que nous traînons, dans des boulets que nous traînons. Est-ce qu'on peut se lever?